Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Lundi 10 juin, notez bien cette date dans votre calendrier, car ce sera le coup d'envoi de la WWDC 2024. Apple dévoilera à cette occasion iOS 18, macOS 15, WatchOS 11 et toutes les autres mises à jour, sans oublier de nombreuses nouveautés pour les développeurs. Quels sont les enjeux de cette édition? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, la Commission européenne soupçonne d'ores et déjà Apple d'enfreindre le DMA, Affinity tombe dans l'escarcelle de Canva et on vous dévoile en exclusivité presto la machine qui est capable de mettre à jour un iPhone sans le sortir de sa boîte. Nous sommes le samedi 30 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Le rendez-vous annuel est pris, Apple organisera sa grand-messe des développeurs le 10 juin. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Stéphane, oui ça va et toi ?
Ça va pas mal, ouais. T'as bien coché le 10 juin dans ton calendrier ?
Ah bah le 10 juin c'est une belle date, c'est la première date que l'on entoure dans un calendrier chez Mac Génération. Comme chacun sait, c'est l'anniversaire de Florian
et, oui, voilà.
Et ça, même Tim Cook ne l'a pas oublié et ça, pour cela on le remercie.
On va parler tout de suite de la WWDC donc. La formule cette année, eh ben, elle sera similaire à celle des années précédentes. Donc il y aura un événement sur place à l'Apple Park en Californie, mais le nombre de participants sera encore limité. Alors Apple communique pas sur le nombre de places disponibles, mais pour vous donner une idée, un analyste avait estimé en 2022 qu'il y avait environ 250 personnes des médias et 1000 développeurs cette année-là. Alors, en sachant qu'en comparaison au plus fort, il y avait 5000 visiteurs lors des WWDC des années 2010. Et puis bon, à tout cela, il faut évidemment ajouter les centaines d'employés d'Apple sur place. Et donc, comme c'est devenu une habitude, la conférence sera accessible entièrement en ligne. Le keynote d'ouverture sera bien sûr retransmis en direct, et après ça, il y aura toutes les vidéos des sessions techniques qui présentent en détail les nouveautés. Et les développeurs pourront aussi demander à faire des visioconférences avec les ingénieurs d'Apple pour poser des questions précises. Donc niveau nouveautés, bah on attend évidemment iOS 18, macOS 15 et puis des mises à jour majeures pour tous les autres systèmes. Moi j'espère au passage que le système d'exploitation du HomePod va gagner un vrai nom, parce que c'est pas pratique de l'appeler logiciel du HomePod à chaque fois. HomeOS ce serait pas mal par exemple. Et alors Christophe, c'est quoi les grands enjeux de la WWDC 2024 ?
Mais tout d'abord, je suis assez étonné qu'on reste un petit peu sur cette formule, on va dire, hybride. Alors, je m'attends pas à ce qu'Apple fasse machine arrière et invite à nouveau, comme ce fut le temps pendant de nombreuses années, 5000 développeurs lors de sa conférence des développeurs. Mais on a vu que la plupart des autres grands noms de la tech, notamment Microsoft et Alphabet, ont fait vraiment des événements, on va dire, 50-50. Là, on verra, peut-être qu'on ne sait pas tout à l'heure actuelle, mais voilà, la WWDC reste a priori un événement très virtuel. Et c'est dommage, parce que je pense quand même que ça ferait peut-être du bien à Apple d'être confronté vraiment physiquement à des milliers de développeurs. Ça permettrait peut-être aussi de mieux prendre la température et peut-être d'être un peu moins déconnecté. Enfin ça, on le verra quand on parlera peut-être du DMA et tout ça. Bon, alors la WWDC, qu'est-ce qu'on va attendre ? Bah déjà, moi, la première chose qui me fait plaisir, c'est qu'on va parler technologie. Et ça, ces derniers temps, c'est presque quelque chose qui est un peu en arrière-fond. Voilà. En ce qui concerne les enjeux, ils sont très, très nombreux cette année. Je pense que le premier d'entre eux, c'est ramener un peu de sérénité. On a quand même le sentiment, là, depuis quelques mois, qu'Apple est un petit peu à côté de la plaque, entre toujours ces histoires réglementaires. Voilà, l'intelligence artificielle qui avance à grands pas et Apple qui est là avec son Vision Pro, voilà, qui a l'air d'être voilà, un petit peu dans sa bulle. Ben, enfin, ben après, c'est juste un sentiment hein, aussi, ce manque de sérénité, parce que bon, Apple va pas tarder à annoncer ses résultats trimestriels. Elle aura toujours un chiffre d'affaires qui va se rapprocher, j'ai pas les chiffres en tête, mais de 80-90 milliards de dollars. Ou enfin, peut-être un peu moins, mais enfin, tout ira bien malgré tout.
C'est pas mal, ouais.
Ouais, voilà. Donc, je l'ai parlé, l'un des enjeux, il s'appelle quand même le Vision Pro. Il est sorti il y a 60 jours. On l'a complètement oublié. On a l'impression que c'est un peu passé à l'as. On nous avait reproché d'en avoir fait des caisses, enfin, c'est certain. Bah, c'est pas mal parce que voilà, c'était peut-être le moment ou jamais. Alors, de ce qu'en dit notre grand maître à tous des casques, c'est-à-dire Phoenix, le soft est un petit peu jeune, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est une version 1.0. Voilà, pour l'instant, le Vision Pro, cela reste une promesse. Voilà. Alors, il ne faudrait pas que ça ne reste qu'une promesse. Alors, il y a quelques rumeurs qui sont intéressantes. Hein, voilà, il paraîtrait qu'on pourrait utiliser le Vision Pro avec un Apple Pencil. Voilà, ça peut donner lieu à des usages intéressants. Voilà, moi, alors, je ne suis pas le gamer d'équipe, mais il serait franchement temps aussi que Apple fasse quelque chose au niveau des jeux. Parce que voilà, avec un tel matériel, on devrait quand même pouvoir avoir des expériences immersives top. Et là, pour l'instant, on se retrouve avec de la réalité augmentée, à jouer aux échecs ou ce genre de trucs. C'est sympa, mais pour 3 500 $, c'est quand même un petit peu léger.
Pour revenir sur le stylet, ne serait-ce que ça, c'est vrai que ce serait pas mal parce que pour remplacer le clavier virtuel qui est quand même pas pratique du tout à utiliser en l'air, en tapant dans le vide, si on avec de la reconnaissance d'écriture, ça serait bien de pouvoir écrire sur une table et puis que le clavier virtuel interprète ça de manière textuelle, ça serait bien pratique, ouais.
Oui, y a vraiment... L'idée, en tout cas, est très intéressante sur
Ouais.
le papier. Alors, le second enjeu, c'est l'intelligence artificielle. Alors, en plus, Apple s'est mise la pression toute seule. Hein. Voilà, Tim Cook a été de son petit mot à plusieurs reprises. Alors, autant dire que si Apple déçoit avec l'intelligence artificielle, j'ai peur pour le cours de bourse. D'ailleurs, Greg Joswiak, donc le responsable du marketing, voilà, il a ajouté également, enfin, il a été avec son petit tweet. Il a dit que la WWDC allait être absolument incroyable. Alors, je l'ai traduit en français. Donc, absolument incroyable, c'est AI, donc c'est intelligence artificielle en anglais. Donc, voilà, ils veulent vraiment faire passer le message. Hein. Alors, d'ailleurs, on entend un petit peu tout et son contraire, notamment en termes d'intelligence artificielle générative. Voilà, il se murmure qu'Apple ne sera peut-être pas prêt pour la rentrée. Voilà, il y a eu des rumeurs. De temps en temps, c'est Apple qui utilise ses propres technologies. De temps en temps, elle s'appuie sur les technologies d'autres. Notamment, il y a eu Google et Baidu, je crois.
C'est ça, ouais.
Donc ça, on verra bien. Mais je pense que c'est très important et ça pourrait d'ailleurs être un vrai ballon d'oxygène pour Apple parce que, d'après ce qu'on comprend, pour la plupart des travaux en intelligence artificielle, Apple va solliciter les systèmes sur puce des iPhones. Il se murmure que les prochains iPhones, ils auront une nouvelle puce Apple Silicon qui sera où la partie intelligence artificielle va connaître un énorme boost. Bref, si Apple réussit à révolutionner les usages, eh ben, ça pourrait donner un coup de boost aux ventes d'iPhone à un moment où on s'y attend pas trop finalement. Et voilà, donc on parle donc là d'iOS 18. Hein. Il se murmure qu'en plus ça pourrait être une grosse mise à jour. Apple va changer pas mal de choses. Au niveau d'interface, ça pourrait voilà être le plus gros rafraîchissement depuis quelques années. Donc voilà, donc il y aura plus d'une chose à voir. Voilà, mais par contre, autant être clair, hein, si Apple met le paquet sur Vision OS et surtout sur iOS. Bah, les autres OS vont récupérer sans doute que des miettes, donc il faut pas s'attendre à grand-chose, que ce soit pour macOS ou watchOS. Après, j'ai cité comme ça quelques enjeux pêle-mêle, hein, donc voilà, voilà, l'un d'entre eux c'est Siri, faut qu'Apple fasse quelque chose pour Siri, non, mais ça peut plus durer, là,
Ça fait
ça.
partie de l'IA, ça, en quelque
Ouais,
sorte.
voilà, mais là, il faut que Siri voilà, devienne un petit peu intelligent. Il y en a un autre que j'ai noté pour moi, je considère que c'est presque un OS à part entière, c'est Safari. Donc là aussi, enfin voilà, Apple, c'est un petit peu. Ça fait longtemps que Safari, en tout cas, en matière d'expérience d'utilisateur, n'innove plus. Il se passe des choses depuis quelques temps dans le monde des navigateurs, notamment avec Arc. Donc ce serait bien que voilà, Apple reprenne un petit peu le lead dans ce domaine. Et puis, bah, qui dit WWDC, dit développeur, dit techno de développement. Voilà, donc là, le menu promet d'être chargé. On pense évidemment à Swift 6 qui pourrait, voilà, on pourrait en savoir plus à cette occasion, à Swift UI également, et également à Xcode, dont les développeurs rêveraient qu'ils se mettent également à l'intelligence artificielle.
Ouais. Eh bien, on va passer maintenant à la news DMA de la semaine. Et oui, c'est un sujet récurrent, hein. Lundi, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour de possibles violations de la nouvelle loi sur les marchés numériques par Apple. Alors, malgré les changements effectués avec iOS 17.4, Apple est soupçonné de ne pas respecter deux grandes règles. La première, c'est celle sur la liberté de communication des développeurs sur l'App Store. Apple restreindrait encore trop leur capacité à communiquer des offres dans leurs applications, par exemple. Et la seconde porte sur la liberté des choix des utilisateurs. Et là, c'est Safari qui est dans le viseur en particulier. Alors, la Commission européenne suspecte Apple d'enfreindre plusieurs obligations, à savoir la possibilité de désinstaller ses applications d'iOS, de modifier facilement les réglages par défaut et de sélectionner facilement un autre navigateur. Et attendez, ce n'est pas tout. Bruxelles s'intéresse aussi aux conditions commerciales d'Apple liées à la distribution des apps iOS sur le web. Alors, il n'y a pas d'enquête formelle sur ce sujet, il s'agit simplement de recueillir de nouveaux éléments pour le moment. On pouvait s'attendre à toutes ces procédures, non ?
Oui, c'était ultra prévisible. En plus, moi, il faut rajouter quand même qu'Apple n'est pas un cas isolé.
Oui.
L'Union européenne a également quelques reproches à faire à Google et Meta. Bon, oui, on est parti, à mon avis, pour une très, très, très longue procédure. Et oui, ça va être un feuilleton sans fin. Moi, j'aurais adoré voir la réaction des avocats de l'Union européenne quand ils ont pris connaissance de la copie d'Apple et surtout de cette fameuse Core Technology Fee qui va sans doute être au milieu, au cœur des négociations pendant des mois et des mois, à savoir est-ce que Apple est bien dans son droit ou pas. Bon, alors là, on est des armées d'avocats d'un côté, une autre armée d'avocats de l'autre côté. J'ai un peu peur pour l'Union européenne que les armées d'avocats de chez Google, Apple et
ils en ont beaucoup
Facebook,
plus déjà, ouais. Que la Commission. Ouais.
Et sans doute des très, 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 très bons.
Ouais.
Donc voilà. En plus, l'Union européenne est pointilleuse, comme tu disais, parce qu'il y a des choses... notamment l'Union européenne, comme tu disais, a reproché à Apple qu'on ne puisse pas désinstaller Safari sur iOS.
Ouais.
Alors là, Apple a joué carte sur table, c'est dans sa feuille de route, ça va arriver prochainement, enfin, d'ici quelques mois. Donc voilà, en plus, si on chipote sur les détails, on n'est pas sorti de l'auberge.
Même l'écran de sélection du navigateur, qui a l'air de poser problème à l'Union européenne, c'est pas très clair, qu'est-ce qui pose problème, quoi. Je demande à voir, qu'est-ce que la Commission demande vraiment pour ça.
Alors, surtout qu'il y a deux choses. C'est vrai qu'on avait presque oublié qu'on pouvait depuis des mois changer le navigateur par défaut dans iOS. Mais on voit que ce fameux panneau-là, ça a eu quand même un impact assez important sur les différents navigateurs qui ont vu, a priori, qui ont eu quand même des pics de téléchargement depuis la sortie de iOS 17.4. Alors, ce que j'ai trouvé, pour finir, très intéressant, c'est le sondage qu'on a fait, où tu demandais au lecteur si il voulait que iOS soit un peu plus ouvert ou non.
Mm-hmm.
Et c'est là où on voit le truc, c'est que je schématise, mais à peine, donc il y avait 50% qui trouvaient que, iOS était très bien comme il était, il ne fallait pas y toucher, et puis il y a à peu près donc 50% également d'utilisateurs qui disaient « Oui, il faudrait qu'il soit un peu ouvert, un peu plus ouvert, soit beaucoup plus ouvert.
Mmh. »
Donc voilà, on est un peu au milieu de nulle part et j'ai bien peur que... Enfin, surtout que là, il y a cet épisode-là et puis il y a l'épisode aux États-Unis qui va pas tarder à... Les grandes manœuvres ont commencé, mais voilà, il faudra attendre le procès pour voir de nouveaux changements, sans doute, dans iOS.
C'est ça, ouais. Sinon, cette semaine, on a assisté à un tremblement de terre dans le petit monde des logiciels créatifs. Serif, l'éditeur des logiciels professionnels Affinity, a été acquis par Canva, qui a une suite d'outils créatifs plutôt destinés au grand public. Cette acquisition va permettre à Canva de s'adresser donc à un public plus pointu. C'est même un concurrent frontal à Adobe qui se dessine. Mais cette opération inquiète beaucoup les clients actuels de Serif, qui craignent notamment que les applications Affinity abandonnent les licences perpétuelles au profit d'un abonnement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle, cette acquisition ?
Statistiquement, c'est une mauvaise nouvelle.
Pourquoi ?
Alors, j'ai une petite colle pour toi. Est-ce que tu te souviens d'un rachat d'un éditeur qui a été positif pour les utilisateurs à la fin ?
Là, comme ça, tu me prends des
pourvus. C'est une colle, j'avoue.
Là, je vois pas, non, dans l'immédiat, non.
Alors moi, j'ai cherché plutôt le verre à moitié vide. Je suis sûr que tu te souviens de Sparrow, ce merveilleux client mail qui était plein de promesses.
Ouais, acheté par Google, ouais.
Voilà, Wunderlist également, était un gestionnaire de tâches très prometteur. Voilà, Microsoft a sorti une version moins bien 2 ans plus tard. On pourrait également parler d'Evernote, même si le logiciel était clairement sur la pente descendante bien avant son rachat.
Bah là, Sparrow et Wunderlist, c'est des logiciels qui ont finalement été finis par être remplacés par d'autres logiciels. Là, a priori, c'est pas trop ce que veut faire Canva, qui veut continuer de vendre les logiciels Affinity à côté, quoi.
Oui, c'est vrai. A priori, ils ont été assez clairs à ce niveau-là. Mais est-ce que ça veut dire que, c'est pas une équipe assez extraordinaire. J'ai vu qu'ils étaient que 90 personnes en Europe, notamment, donc je sais pas combien de développeurs ça fait au total. Mais c'est là où, quand même, le travail des équipes de Serif est quand même assez impressionnant, parce qu'ils arrivent quand même à avoir une suite de logiciels qui se tient et qui doit sans doute répondre aux besoins de 99% des utilisateurs qui utilisent, par exemple, les outils d'Adobe. Malgré tout, quand il y a une acquisition, je reste plutôt méfiant, même si cela peut potentiellement donner plus de moyens à Serif. Qui dit plus de moyens, ils ont investi de l'argent, donc ils vont vouloir aussi un retour sur investissement. Et voilà, et l'abonnement est tellement maintenant entré dans les mœurs que ça paraît un petit peu inévitable. Et pourtant, c'est très paradoxal, parce que ce qui a notamment fait le succès de la gamme des logiciels Affinity, c'est qu'ils étaient, c'était la promesse qu'il n'y avait pas d'abonnement.
Donc c'est ça, oui.
Donc c'est sûr qu'il se mord la queue. Mais l'intelligence artificielle, c'est sans doute maintenant le nouvel argument à la mode pour pousser à l'abonnement. Donc on verra bien, mais je suis plutôt pessimiste.
Ok, on va terminer le tour de l'actu avec des détails exclusifs sur Presto. Alors Presto, c'est la machine qui est employée dans certains Apple Store pour mettre à jour les iPhones sans les sortir de leur boîte. Et oui, c'est possible. Ça évite ainsi aux clients d'avoir à effectuer une mise à jour juste après le déballage de leurs iPhones. Alors à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne, Christophe ?
Ah oui, alors, tout d'abord, ça illustre quand même un véritable problème chez Apple, c'est celui des mises à jour. Attendre 15, 20, 30, 40 minutes pour mettre à jour sa montre, son ordinateur, sa tablette, c'est un vrai souci, et je pense qu'il faudrait qu'Apple, même si elle fait des efforts continuellement, mais il faudrait qu'elle trouve les solutions pour que ça se fasse de manière beaucoup plus transparente. Et c'est pour ça que, du fait qu'elle a ce problème, elle arrive à mettre au point cette solution qui est très ingénieuse, donc qui est Presto, donc qui prend la forme d'un petit casier à deux rayons, on peut les superposer, on a l'impression d'avoir des racks. Concrètement, c'est une sorte de toaster d'iPhone. Donc, Presto peut accueillir jusqu'à 6 boîtes d'un coup. Donc, on pose des boîtes sur ce fameux objet. Et voilà. Et 15 minutes plus tard, en théorie, l'iPhone est à jour. Enfin, à condition que l'iPhone déjà soit suffisamment chargé. Parce que c'est la première chose à faire dans un premier temps. Pour lancer une mise à jour, je crois qu'il faut que l'iPhone soit chargé à hauteur de 60%. Alors, au niveau des technologies, on sait que Presto utilise la NFC, la recharge sans fil, et un logiciel baptisé Presto également, qui fonctionne depuis un Mac mini. Le Mac en question, il héberge l'image des mises à jour installées, ce qui permet évidemment d'accélérer grandement le processus. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On ne sait pas, on imagine que le Mac Mini communique avec les iPhones en Wi-Fi. C'est ce qu'on sait en tout cas. Le truc c'est une bonne idée. Je pense que pour les utilisateurs, c'est sans doute très agréable d'avoir son iPhone qui arrive à jour. Mais c'est aussi un sacré casse-tête logistique pour les équipes en Apple Store. Vous imaginez la réserve avec des centaines d'Apple Store, à savoir, celui-là a été mis à jour, celui-là, il faut le mettre à jour. Alors, il y a un système où, forcément, avant de mettre la machine sur Presto, il scanne l'iPhone. Mais je pense que lorsqu'il y a ne serait-ce qu'une simple mise à jour de sécurité, ça veut dire un peu de travail pour les personnes en arrière-boutique qui ont déjà beaucoup de choses à faire.
Ouais. Mais vous pouvez voir une photo exclusive de Presto sur e-génération. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end et bonne chasse au jeu à tout le monde.
Et à la semaine prochaine pour un nouveau Sortie de Veille. Salut!